Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 67e épisode. Dans cet épisode, j'essaye de répondre à la question « Pourquoi est-il souvent difficile de trouver des partenaires dominants ou dominantes ?» Première partie, pourquoi cet épisode ? Quand je consulte des forums de rencontres, notamment sur le site social BDSM FetLife.com, je vois très souvent passer dans les annonces, c'est-à-dire dans les groupes d'annonces, je vois souvent passer des demandes d'hommes, soumis donc, qui cherchent des femmes dominatrices. Un peu moins fréquemment, je vois passer aussi des messages qui sont des femmes qui cherchent un homme dominateur, et bien entendu, de temps en temps, il y a de tout autres demandes. Notez que je reçois aussi sur mon site des messages dans ce sens, ça vient le plus souvent d'hommes qui sont à la recherche donc d'une femme dominatrice. Quand on lit ces forums, ces annonces de forums, avec un peu d'expérience, on sait une chose, c'est que presque toujours, il n'y aura pas de réponse. En fait, les seules personnes qui aient de véritables réponses, c'est-à-dire des réponses à la question, ce sont les profils de type femme. Les profils de type homme ne reçoivent à peu près jamais de réponse, du moins jamais de réponse sincère et honnête. Ce sont presque toujours des plaisanteries, des moqueries, des remarques sarcastiques, et notamment une remarque très fréquente qui est propagée par un certain nombre de personnes, à peu près toujours les mêmes, c'est « va voir une pro », c'est-à-dire « va voir une professionnelle, une dominatrice professionnelle ». Sous-entendu, c'est pas ici que tu trouveras, t'as aucune chance, faut payer. Et bien sûr, tout ça c'est dit d'une façon volontairement blessante, malfaisante, etc., mais j'entrerai pas plus dans les détails. Ce dont on parle le plus, c'est du problème qui est, à mon avis, le plus visible, c'est donc les hommes qui sont en recherche d'une femme dominatrice. Cela dit, la visibilité, ça ne veut pas tout dire, et en réalité, hein, même si on en parle moins, il y a tout autant de femmes qui se plaignent du problème similaire, de la réciproque, c'est-à-dire quand elles veulent trouver un homme dominant. C'est juste que on voit moins passer ce genre de demande dans les forums, donc on en parle un peu moins souvent, mais ça existe, et je sais que ça existe, puisque avec mon site, hein, je reçois aussi des plaintes à ce niveau-là. Mais quand on parle du sujet, donc, le plus visible, c'est les demandes d'hommes hétéros, donc vers des femmes dominantes. C'est pour ça que quand on parle de ça, en général, c'est cet angle-là qui est mis en avant, et toutes les autres possibilités sont ignorées. Mais attention, hein, même si probablement il y a plus de demandes de la part d'hommes, c'est vraiment quand même avant tout un problème de visibilité, hein, pour être vraiment bien clair. Ça veut pas dire que ce soit le seul cas où il y a le problème. Donc, si on se fie à ça, si on se fie aussi à différents échanges qu'on peut voir lors d'événements BDSM sur d'autres forums, qui se tournent un peu tous autour du même sujet, c'est que quand on veut faire des rencontres, il est difficile de trouver un partenaire, ou une partenaire surtout, qui soit dominant ou dominante. C'est vraiment un sujet qu'on voit passer assez souvent. Et comme on parle assez souvent des rencontres, pour des raisons un peu évidentes, parce que c'est un des sujets principaux qui sont abordés quand on parle de BDSM, hein, parce qu'il y a toujours une difficulté pour trouver un ou une partenaire, ou pour convaincre le partenaire actuel ou la partenaire actuelle. La question que je vais poser, c'est alors, qu'en est-il vraiment de tout ça? Est-ce que c'est un miroir déformé? Est-ce que ce ne sont que des anecdotes et il ne faut pas en tirer une conclusion sur la réalité du problème? Ou est-ce un vrai problème? Est-ce que c'est vraiment difficile de trouver un ou une partenaire avec des tendances, des envies, des pratiques de domination? Bref, y a-t-il réellement un problème de fond? Si oui, lequel? Et surtout, pourquoi? Je vais tenter de répondre à tout ça dans les parties suivantes. Deuxième partie, de quoi parlons-nous exactement et le problème du contexte. Comme toujours, je sais que je me répète, mais c'est vraiment très important, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes de podcasts précédents, je le dis sans arrêt dans mes articles sur mon site, il faut toujours vraiment beaucoup nuancer et faire attention au contexte. Évidemment, une demande de partenaire, une recherche de partenaire, ça dépend de plein de facteurs, par exemple de l'intensité. C'est sûr que si vous cherchez juste à faire, par exemple, des pratiques du genre mettre un bandeau sur les yeux, être peut-être une fois de temps en temps attaché ou attaché, ou à l'inverse, c'est vous qui attachez votre partenaire, ou bien peut-être donner ou recevoir une fessée, ou plein d'autres pratiques, mais là je n'ai cité que quelques exemples hyper archi connus dans un but de simplification parce que ce sont des choses que tout le monde connaît, c'est évident que si vous cherchez un ou une partenaire qui s'intéresse à ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile de trouver une personne qui accepterait ou serait intéressée en tout cas par ce genre de choses une fois de temps en temps, que de chercher quelqu'un qui est à fond dans BDSM, quelqu'un comme moi par exemple, ou comme pas mal de personnes qui vont dans les événements BDSM, et qui sont plus ou moins sérieusement à fond dedans, et parfois vraiment, vraiment à fond dedans. C'est évident que plus vous cherchez quelqu'un qui est à fond dans une activité, moins il y a de personnes, donc plus c'est dur à trouver, évidemment. D'où l'importance que je répète, je sais que je le radote, mais l'importance du contexte. En fonction de quel type de recherche on est en train de parler, c'est clair que ça change tout. Une recherche pour des pratiques légères sera beaucoup plus facile qu'une recherche pour des pratiques beaucoup plus intenses, voire extrêmement intenses. Ça va de soi. Le premier point que je voudrais soulever, très brièvement, c'est un rappel, super rapide, hein. Qu'est-ce qu'on entend exactement par un partenaire ou une partenaire dominant? De façon super simple, hein, dans le BDSM, il y a beaucoup de rôles, et parmi les rôles classiques, vous avez deux grandes catégories qui sont le profil plus ou moins dominant et le profil plus ou moins soumis. Bien sûr, ça peut être homme, femme, etc. Hein, il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là, il n'y a pas de rôle qui soit genré. Hein, attention à ne pas tomber dans ce piège-là. La personne qui est attirée par la domination, c'est la personne qui va aimer donc soit faire suivre des règles à quelqu'un, soit donner des ordres, soit par exemple donner des fessées, attacher, ce genre de choses. Donc la personne qui entre guillemets impose une domination, qu'elle soit physique ou plutôt mentale, psychologique, sur quelqu'un qui est donc un ou une partenaire qui endosse un rôle de soumission, qui est donc évidemment le complément, qui est totalement à l'opposé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut être attaché, qui veut recevoir par exemple des mots crus, des insultes, la domination verbale, ou bien des choses de type SM comme des fessées et ce genre de choses. Donc vous voyez, là j'ai fait exprès de donner une définition très floue, c'est volontaire parce que en fait tous ces rôles ils sont assez flous, et quand on parle de ces deux catégories qu'on peut considérer comme majeures, sans entrer plus dans les détails parce qu'il y a des subtilités, mais sans entrer plus dans les détails, c'est quand même deux catégories qui sont très répandues, qui ne sont pas les seules, on peut faire du BDSM sans entrer dans ces cases-là, et je veux insister sur un point, c'est très important, quand on dit domination-soumission, c'est vraiment vague et faut surtout pas comprendre que le côté SM, par exemple le côté je donne des fessées ou je reçois une fessée. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, ça peut être aussi attaché ou être attaché, ça peut être le côté psychologique, donner des ordres, etc. et plein d'autres choses. Donc maintenant qu'on est absolument d'accord sur de quoi on parle, de qui on parle, mon point suivant sera, il faut relativiser tout ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. L'intensité varie énormément selon les personnes, et la plupart des personnes qui sont dans une recherche de partenaires ne veulent pas un ou une partenaire qui soit super expert, qui soit à fond dans le BDSM à plein temps, etc. En plus de ça, des personnes comme ça, hein, personnellement j'estime qu'on peut compter que c'est quelques milliers de personnes en France, donc c'est très difficile de trouver quand on fait une recherche sur ces types de profils. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça et se contentent, entre guillemets, hein, de chose beaucoup plus simple, beaucoup moins intense, et sont beaucoup plus nombreuses, donc c'est quand même plus facile, toute proportion gardée bien sûr, de trouver. Personnellement, ce que j'ai plutôt remarqué, sans avoir de prétention à ce que ce soit scientifique, c'est que quand même, dans les demandes qu'on voit passer sur les forums, dont j'ai parlé tout à l'heure, souvent ces demandes, elles sont quand même assez spécifiques, elles viennent de personnes pas forcément expérimentées, il y a beaucoup de personnes qui débutent, surtout d'hommes qui débutent, mais dans leurs demandes, la plupart du temps, il y a soit implicitement, soit explicitement, l'idée de trouver quelqu'un qui est, entre guillemets, à fond dans BDSM, qui est expérimenté, qui est pas forcément à plein temps, pas forcément totalement à fond dedans comme moi, mais qui est déjà très intéressé là-dedans, qui fait déjà des choses relativement intenses, voire plus. Du coup, là, on voit déjà un problème, c'est que forcément, je viens de le dire à l'instant, ces annonces-là, la probabilité qu'on leur réponde, même si les forums de rencontres ça marchait, et ce n'est pas le cas, la probabilité est très faible parce qu'il y a très peu de personnes qui seront intéressées, évidemment. Donc faut vraiment bien relativiser, c'est super important de distinguer qu'il y a vraiment un continuum dans le BDSM, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais faut le redire, il y a un continuum dans les pratiques, on va du plus léger au plus intense, et il faut surtout pas se focaliser uniquement sur les cas qui sont assez intenses ou plus. Un troisième point que je voudrais aborder, qui est assez important, c'est que j'ai vu très souvent passer des délires et des définitions mais vraiment bizarres sur qu'est-ce que c'est qu'un dominant, un partenaire ou une partenaire dominant. Je viens d'essayer de vous donner tout à l'heure dans le premier point une définition, hein, même si elle était volontairement relativement vague, mais vous pouvez trouver des choses vraiment totalement bizarres, notamment un gros classique, hein, c'est le coup du vrai dominant qui est relié à la bonne soumise. Si ces termes ne vous parlent pas, j'en parle assez longuement dans mon épisode numéro 55, dont le titre est « Mythe, le vrai dominant et la bonne soumise ». J'explique l'existence, le pourquoi de l'existence, et j'explique que tout ça, ça n'a aucun sens. et que aussi c'est plutôt toxique comme attitude. Mais ces attitudes sont assez présentes, et ce que ça veut dire en gros, c'est qu'il y a pas mal de monde qui a des tendances au dogmatisme, à l'élitisme, et qui veut absolument voir un seul et unique type de personnes dominantes, ce sont les personnes qui sont à fond dedans. Et encore, même ça c'est pas forcément suffisant, il faut que la personne suive leur conception du BDSM. J'insiste pas sur ce point là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre assez souvent, donc évidemment, dans ce cas là, vous vous doutez bien que c'est quasiment mission impossible hein, pour trouver des personnes comme ça, si c'est ce qu'on cherche, par définition. Et je voulais aussi évoquer brièvement un cas que je rencontre de temps en temps, un peu trop souvent à mon goût d'ailleurs, c'est qu'il y a des personnes qui sont incroyablement exigeantes, mais au point que c'est fou, c'est complètement délirant, parfois c'est bizarre. Je vais juste vous citer très brièvement un exemple que j'avais lu qui m'avait frappé. Il y a plusieurs années, j'avais trouvé une femme qui sur internet avait fait une annonce dans laquelle elle cherchait un homme. Je crois pas que c'était un homme dominant d'ailleurs. C'était pas forcément dans un cadre BDSM. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que sa liste de demandes, d'exigences, parce que c'était des exigences, faisait au moins une page écrit petit. Et ce qu'elle cherchait était tellement, mais tellement hyper spécifique. Et évidemment, elle cherchait bien entendu que le mieux du mieux, hein, c'était pas juste je voudrais quelqu'un qui ait tel type de vêtements, tel type de couleur d'yeux, etc. Non, non, ça allait au-delà. C'était délirant ce qu'elle cherchait. Personnellement, je pense pas qu'il y ait un homme sur 1 million qui puisse ne serait-ce que s'approcher de ce qu'elle cherchait. Et probablement même pas 1 sur 1 million. Vous allez me dire, c'était peut-être une super top modèle de 25 ans, millionnaire, etc. Non, pas du tout. Ce qui rendait les choses encore plus bizarres. En gros, elle avait zéro chance que ça marche. Et vous avez quand même assez souvent des gens comme ça qui, franchement, ont des demandes qui sont très déraisonnables. Là, c'est un cas qui est exceptionnel. Hein. J'avais jamais rencontré un cas aussi délirant, mais j'ai déjà vu passer pas mal de perles. J'ai déjà vu passer des gens qui vraiment demandent de tous les côtés, hein, je veux dire hommes, femmes, tout ce que vous voulez, qui ont vraiment des demandes super spécifiques. Alors évidemment, si on a des demandes qui sont fortement centrées sur tel ou tel aspect, il n'y a pas besoin de vous expliquer en détail pourquoi c'est très difficile de trouver quelqu'un qui correspond, surtout quand les critères sont complètement déraisonnables. Le quatrième point que je voudrais aborder, c'est attention aux stéréotypes sexistes. Je sais bien qu'il y a ce stéréotype qui existe, notamment chez les personnes qui ne connaissent pas réellement hein, le BDSM, qui connaissent pas sa réalité, comment ça se passe concrètement. Il y a cette idée que forcément, il y a que deux choses dans le BDSM, des femmes qui sont soumises, forcément, des hommes qui sont dominants, forcément. Avec tout un tas de sous-entendus sexistes, hein, bien sûr, sur l'idée reçue totalement dépassée et fausse, hein, de toute façon, que les femmes ceci et les hommes cela. C'est totalement absurde, donc je vais pas insister. Et implicitement, il y a aussi l'idée d'ailleurs, et je vais y revenir tout à l'heure, que c'est plus facile pour les hommes d'être dominants. Ça, c'est complètement stupide, mais je vais y revenir tout à l'heure. La réalité, elle est assez éloignée de ça. Hein. Franchement, l'idée que c'est divisé en deux et que c'est binaire est totalement fausse. Hein. Déjà, c'est totalement absurde en dehors du BDSM, alors dans le BDSM, c'est vraiment n'importe quoi. Sous un format podcast, c'est très difficile de vous donner des chiffres. Alors, je vais juste vous donner quelques idées générales, mais avant, je veux préciser quand même, je vais donner quelques chiffres, mais ils sont à prendre avec des pincettes, hein, franchement. Parce que, d'abord, en fonction des études qui ont été faites, de la façon dont elles étaient faites, de la question ou des questions qui ont été posées, de qui a été interrogé, parce que souvent, par exemple, ce sont des étudiants du style 20-25 ans. Alors, évidemment, vous pouvez difficilement prendre ces résultats et essayer de les projeter sur toutes les autres catégories d'âge. De même, les étudiants, c'est pas la même chose que les personnes qui travaillent, par exemple, etc. Il y a aussi le problème de dans quel pays ça s'est passé, parce qu'il y a quand même des différences entre les pays. Et en plus de ça, d'une étude à l'autre, même quand ils essayent d'être un peu sérieux, ce qui est pas toujours le cas, les chiffres varient beaucoup. Donc, ce que je vais vous donner, c'est juste des ordres de grandeur qui n'ont qu'un seul but, c'est de montrer que non, il n'y a pas d'un côté les hommes qui sont dominants et de l'autre côté les femmes qui sont soumises. J'ai repris une étude transversale qui présente les résultats d'autres études et qui citait un certain nombre de chiffres. Dans ce genre de chiffres, par exemple, on peut trouver des choses du genre pour le masochisme, c'est-à-dire aimer recevoir de la douleur mentale ou physique, les pourcentages sont environ 19% pour les hommes et un petit peu moins de 28% pour les femmes. Donc vous voyez, le pourcentage certes est un petit peu plus élevé pour les femmes, mais c'est pas radicalement plus élevé, hein, c'est ça que je voulais bien montrer. Pour le côté sadisme, les pourcentages sont 9,5% chez les hommes, 5,1% chez les femmes. Vous remarquez qu'il y a beaucoup moins de personnes intéressées par le sadisme. Je vais reparler de ce problème tout à l'heure. Et vous voyez aussi que même si les chiffres sont assez différents, ils sont pas non plus radicalement différents. Dans une autre étude, ils disent que 72% des hommes et 59% des femmes ont la fantaisie de se faire attacher, et 65% des hommes, 58% des femmes ont la fantaisie d'attacher quelqu'un d'autre. Pour des choses comme le fouet par exemple, 60% des hommes, 31% des femmes avaient des fantasmes du genre donner une fessée, donner le fouet, ce genre de choses. Et à l'inverse, recevoir, c'était 44% pour les hommes, 35% pour les femmes. Vous voyez, ces chiffres sont différents, pas toujours de la façon qu'on pourrait penser, mais ils sont pas radicalement différents, hein, c'est ce que je voulais montrer. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais dans un format podcast, c'est vraiment difficile, donc je vais me restreindre à ça. Ce que je voulais juste vous présenter, c'est que vraiment, il faut faire très attention à ne pas tomber dans les stéréotypes de genre. Il y a apparemment quand même un certain nombre de préférences un peu plus élevées, selon qu'on est un homme, une femme, etc. Ça varie aussi en fonction de l'orientation sexuelle d'ailleurs, mais là, je vais pas dans les détails, mais quand même, il faut vraiment très fortement relativiser, hein. C'est pas radical. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important que je veux être sûr qu'on se comprend. Et dans un cinquième point, je voudrais parler du problème et de ses exagérations. Visiblement, je viens de citer des statistiques là qui montrent qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la domination. Pourtant, vous pouvez trouver des choses, j'en avais parlé tout à l'heure un petit peu de personnes qui exagèrent, qui délirent, qui disent n'importe quoi. Vous pouvez trouver assez aisément et assez fréquemment des personnes qui vous assènent des choses du genre « il y a 20, 50, 100, 200 hommes soumis par femme dominatrice ». Vous remarquez le problème, hein, les statistiques que je viens de présenter très brièvement dans la partie précédente contredisent carrément ce genre de façon de présenter les choses, il y a un problème. Et là encore, je vous ai pas présenté les pires, hein. Vous pouvez trouver des cas, j'ai vraiment été choqué par certaines exagérations, on trouve aisément des personnes qui vous disent des choses du genre « il y a une personne dominante pour 1000 personnes soumises » ou même, dans mon souvenir, le pire que j'ai trouvé, c'était « une personne dominante pour 10 000 personnes soumises ». Je pense que j'ai pas besoin d'insister sur le fait que c'est totalement absurde, c'est délirant, ça n'a pas de sens. Là, clairement, hein, on est en train de parler de personnes qui ont une vision hyper ultra étroite, complètement bizarre, de ce que c'est être dominant. Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, même si on pourrait les discuter, et ensuite, faut voir exactement qu'est-ce qu'on entend par dominant, quelle était l'intensité auquel les personnes pensaient, mais clairement, c'est pas 1 pour 1000, c'est pas 1 pour 10 000, c'est complètement absurde, c'est ridicule. Personnellement, je trouve que c'est complètement stupide de dire ça. Ça n'a pas de sens. Évidemment, parfois, ce genre de conception, sans aller dans ces exagérations que je viens de citer, viennent d'expériences qu'ont eues des personnes en allant, par exemple, dans des clubs. Ce qui est un problème, mais ce qu'il y a, c'est qu'une expérience, c'est une anecdote. Une anecdote, c'est pas une statistique. Je vais vous citer rapidement un témoignage que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est celui de Jay Wiseman, qui est un auteur BDSM bien connu, qui a commencé à se lancer, entre guillemets, dans le BDSM aux USA dans les années 70. Il a écrit des livres, il a participé à des associations, enfin, c'est quelqu'un vraiment assez connu, et dans son livre qui existe uniquement en américain, donc je vous cite le titre, c'est SM 101, A Realistic Introduction. Ça s'écrit en fait SM 101, ça veut dire SM 101, une introduction réaliste. Dans ce livre, dans les premières pages, dans les préliminaires, il explique ses premiers pas dans le monde du BDSM, et évidemment dans les années 70, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas le web, il y avait énormément de tabous, beaucoup plus que maintenant, bref, c'était difficile d'aller dans des événements BDSM, mais il existait des choses organisées, des clubs, etc., qui, entre parenthèses, n'utilisaient pas le terme BDSM, qui n'existait pas encore à cette époque-là. Après avoir eu quelques expériences personnelles avec des jeunes femmes de son âge, hein, bien entendu, qui avaient elles aussi des intérêts pour, par exemple, le bondage, ou du moins il avait réussi à les convaincre de faire des essais, il avait trouvé un club pas loin de là où il habitait, et il avait donc tenté d'y aller. Et sa description est la suivante, et ça m'a vraiment marqué. Il écrit que dans la pièce où étaient entrées les personnes qui devaient participer à la soirée, il y avait une trentaine de personnes. Et à un moment donné, une des personnes responsables du club était entrée et avait demandé à toutes les personnes intéressées par le rôle de soumission de le suivre. Et là, dans le livre, il explique que il s'attendait à ce qu'il y ait à peu près personne qui se lève. Parce que dans son esprit, c'est ce qu'il explique, lui, il arrivait à concevoir aisément qu'on puisse vouloir être dominant, mais il avait du mal à comprendre qu'on puisse vouloir être soumis ou soumise. Et là, il avait été très surpris, parce que là où il s'attendait à ce qu'il y ait presque personne qui se lève, eh bien, la plupart des gens, en fait, avaient suivi l'organisateur et étaient sortis de la pièce. Et il raconte que sur une trentaine de personnes, seuls 4 étaient restés, donc parce qu'ils avaient des envies de domination. Ça l'avait évidemment surpris, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'avait pas d'informations sur le BDSM, il était en pleine découverte, hein, même s'il avait déjà dépassé la vingtaine, et à cette époque-là, là, bien entendu, les informations sur BDSM, c'était misérable. Évidemment, quand vous entendez un témoignage comme ça, même si c'est un témoignage lointain, vous pouvez pas ne pas avoir l'idée, l'impression, que la plupart des gens sont intéressés par la soumission. C'est assez normal. L'ennui, c'est que tout ça, ce sont que des anecdotes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La vérité est beaucoup plus nuancée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui s'intéressent à la soumission, et c'est pas impossible qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent à la soumission qu'à la domination, même si je me méfie un peu des chiffres. Mais tout à l'heure, je vais revenir à ce que je pense être le problème de fond. En attendant, donc, ce que je voulais vous présenter, c'était un peu tous les aspects, tous les angles du problème, et vous montrer qu'il y avait vraiment quand même beaucoup, mais alors beaucoup, d'exagérations, de mauvaises perceptions, de chiffres qui sortent du chapeau, et je suis très poli. Bref, il y a beaucoup de délire sur le sujet, alors que clairement, les statistiques que j'avais évoquées brièvement tout à l'heure montrent que c'est quand même pas une différence si énorme, et c'est certainement pas une personne dominante pour 100 personnes soumise, complètement ridicule. Cela dit, il y a quand même pas mal de personnes qui ont du mal à trouver donc des partenaires, que ce soit des hommes, des femmes qui sont dominants, et il y a toujours cette idée que c'est difficile de trouver des femmes dominatrices. Je vais y revenir tout de suite. Troisième partie, le souci de fond dont malheureusement on parle trop peu souvent. Alors, il est impossible, hein. Franchement, il est impossible de répondre de façon sérieuse, rigoureuse, scientifique à la question est-ce que réellement il y a une si grande différence ? Mais je pense quand même que les statistiques de tout à l'heure, et il y en aurait plein d'autres hein, bien entendu, montrent que même si on ne sera jamais d'accord sur des chiffres précis, les ordres de grandeur quand même sont, il y a des différences, notamment il y a des différences entre les hommes et les femmes, il y a aussi d'autres différences sur d'autres facteurs mais je vais pas entrer dans les détails, mais ce sont pas des différences radicales, hein, on est bien d'accord. Du coup, ça devrait pas être si difficile, relativement, hein, de trouver des partenaires dominants ou dominantes. Et puis c'est quand même un peu bizarre aussi qu'il y ait cette idée que c'est particulièrement aigu, particulièrement difficile de trouver des femmes qui sont dominantes. Pour moi, il y a un problème de fond qui est malheureusement en général ignoré et qui explique pour une partie le problème. Le problème, c'est que, contrairement aux préjugés qu'on voit traîner un peu partout, notamment les préjugés sur le BDSM, et surtout les préjugés sur les hommes, il y a plein de personnes qui ont des scrupules à dominer, qui ont des hésitations, qui se disent « comment est-ce que je vais séparer ma vie BDSM de ma vie normale ?» Alors, le plus gros problème, c'est quand on vit en couple, évidemment. Imaginez la situation où, si vous, vous faites pas encore BDSM, vous y avez pas été confronté, mais si on fait du BDSM avec des personnes qu'on fréquente de temps en temps, on peut endosser le rôle BDSM quand on se rencontre, et après on se dit au revoir à la prochaine. Vous voyez, c'est assez gérable. Par contre, quand on vit ensemble, et là je ferai abstraction des problèmes de quand on vit avec la famille, avec les parents, avec les enfants, etc. Je parlerai même pas de ça pour simplifier. Mais si vous connaissez pas le problème, imaginez, il y a un couple comme ça, où un des partenaires est dominant ou dominante. Pendant une séance sexy, entre guillemets, on fait du BDSM. Et, par exemple, la personne qui est dominante, elle va peut-être attacher le partenaire ou la partenaire, lui donner des ordres, utiliser des mots crus, etc. Vous voyez, la difficulté, c'est ça. C'est pas tellement le côté physique, c'est le côté psychologique, le côté moral. Parce que une fois qu'on va être sorti de la session sexy, une fois qu'on a fini de coucher, disons les mots comme ils sont, de faire du BDSM et de faire tout le reste qui va avec, comment est-ce qu'on revient à sa relation normale alors que une heure avant, deux heures avant, deux jours avant, on en était à des « vas-y salope, fais ci » ou bien « vas-y gros porc, fais ça », etc. Pour le côté physique, le côté SM, je pense que c'est beaucoup moins un problème parce qu'il est plus facile de faire la part des choses. Pour le côté mental, le côté psychologique, c'est plus dur. Et après, il y a, et ça, ça a toujours été un gros problème dans le BDSM, hein, il y a toujours une difficulté à ce que je disais à ce moment-là, est-ce que c'était vraiment dans le contexte BDSM? Faut faire la part des choses. Faut séparer ce qu'on fait au lit, ce qu'on fait hors du lit. C'est ce que je dis toujours, hein. Sauf que c'est pas toujours facile. Et pour ça, c'est pas aisé. Surtout si on n'est pas à fond dans le BDSM, qu'on a des scrupules, qu'on n'a pas de recul. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas un problème parce que moi j'ai du recul. Je sépare facilement mon BDSM de mes activités hors BDSM. J'ai aucun mal à rencontrer quelqu'un, à la traiter de tel et tel nom. Et tous les deux, on sait très bien que c'est uniquement dans le contexte BDSM. Mais pour ça, faut avoir déjà acquis du recul, une confiance en soi, une certitude dans le fait qu'on en est capable de les séparer les deux mondes. De séparer le monde du sexe et BDSM et le monde de la vie en dehors du sexe BDSM. Et ça, c'est pas forcément aisé, et surtout quand on débute, on peut avoir beaucoup d'hésitations et de scrupules. Je sais que moi j'en avais à mes débuts, notamment quand j'étais à la fin de mon adolescence et au début de ma vingtaine, j'avais beaucoup d'hésitations à cause de ça en fait. Maintenant évidemment, des dizaines d'années après, je les ai plus, mais ces hésitations, elles se comprennent. Elles se comprennent franchement, et du coup, dans une certaine mesure, elles jouent sur la difficulté de convaincre le partenaire ou la partenaire, et a fortiori aussi de trouver quelqu'un par exemple par des annonces, surtout des personnes qui cherchent des choses un peu intenses. Donc ça, ça joue. C'est-à-dire, on peut avoir envie, mais s'y mettre, c'est autre chose à cause de ce genre d'hésitation. Par contre, vous voyez, pour le côté soumission, vous avez pas ce problème parce que la personne qui est soumise, elle reçoit. Elle reçoit les coups de fouet, elle est attachée, elle reçoit les mots crus, elle reçoit peut-être des ordres et ce genre de choses. Mais la personne, ensuite, elle ne va pas avoir le scrupule d'avoir dit des choses qu'ensuite elle pourrait regretter. Il y a le risque que ce soit mal pris et qu'ensuite, évidemment, la personne soumise en veuille à la personne dominante. Mais ça, c'est un autre cas que je vais pas traiter ici. Et je pense pas que c'est aussi fort que le côté des hésitations de la personne dominante. Et je devrais pas avoir besoin de le dire, mais les hommes ont aussi ce genre de scrupules, évidemment. Parce que les idées reçues sur les hommes, ci et ça, elles ont beau dos, mais elles tiennent pas vraiment la route quand on les examine d'un peu près. Et au final, qu'on soit un homme ou une femme, il y a un autre côté qui est directement une conséquence de ce que je viens de dire, c'est que c'est carrément, pour beaucoup de personnes, et ça se comprend, embarrassant de parler de ça tout haut, de reconnaître ouvertement qu'on voudrait dominer. C'est embarrassant à cause des préjugés sur la domination dans le sens négatif du terme hors du BDSM, je veux dire, sur les inégalités de relations de pouvoir, et puis évidemment, vous avez, surtout dans le cadre d'un contexte de couple hétéro, vous avez tout de suite le problème, quand on est un homme en tout cas, des accusations de misogynie, de violence conjugale, etc. Toutes ces choses-là, dont malheureusement, on parle de plus en plus fortement contre le BDSM, par ignorance, bien sûr, parce que le BDSM n'est pas, c'est évident, quelque chose d'abusif et il n'y a pas de misogynie et de choses comme ça, il n'y a pas de sexisme dedans, c'est complètement ridicule. Seulement, ces attaques qui sont portées par beaucoup de personnes, elles portent beaucoup, et c'est pour ça que je combats les mythes. Et quand vous avez eu pendant des années, des dizaines d'années, tout autour de vous, une atmosphère comme ça de rejet de ce côté de domination dans le cadre BDSM notamment, où on vous dit que c'est mal en fait, c'est un petit peu difficile de combattre ce genre de choses. Moi, je sais que j'en ai pas mal souffert de ce genre de problème, de ce genre de mythe, et même de nos jours, c'est pas du tout évident de les dépasser, parce que les préjugés, les mythes, etc. n'ont pas du tout diminué. En tout cas, sur ce genre de point-là, c'est de plus en plus utilisé, en fait, contre le BDSM, je dirais. Quant au cas des femmes, vous pouvez avoir aussi un autre problème, en plus de ce que je viens de dire, évidemment, qui est tous les problèmes d'hésitation dus de la même façon que ce que j'ai dit précédemment. De toute façon, c'est tous les stéréotypes sur le genre, sur la sexualité, etc., qui rajoutent aussi une couche d'hésitation. Est-ce que je peux vraiment me permettre de dire ça? Est-ce que ça va pas être mal pris? Est-ce que ça va pas être perçu comme étant pervers, entre guillemets, etc.? Donc je pense que là aussi, il y a une couche qui se rajoute. Et en plus de ça, vous avez une autre difficulté qui est bien connue. C'est que sur les forums, par exemple, il y a beaucoup moins de femmes qui interviennent sur les forums de rencontres, je voulais dire, parce que vous connaissez probablement le problème, comme il y a beaucoup moins de femmes sur ces forums ou sur les sites de rencontres que d'hommes, forcément, elles se retrouvent très vite harcelées. Du coup, ça n'incite pas, franchement, à utiliser ce genre de procédé, et ça pourrait expliquer aussi, pour une partie, pourquoi c'est si difficile de trouver des personnes qui le disent ouvertement. Et vous notez, c'est là le point important, c'est les personnes qui le disent ouvertement. Notamment les femmes, mais chez les hommes, il y a le problème aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des envies, qui ont des pratiques, qui veulent pas le dire, ou qui ne se manifestent pas sur les forums, ou qui veulent pas trop se mettre en avant pendant les événements, etc. Parce que tous les problèmes que j'ai décrits tout à l'heure, les côtés embarrassants, est-ce que c'est pervers, la domination, c'est un peu mal vu quand même, il y a beaucoup d'accusations, c'est très aisément, je viens de le dire, vous m'excusez si je me répète, mais c'est très aisément confondu avec des accusations de sexisme, de misogynie, d'abus. Du coup, c'est délicat pour les hommes, mais c'est délicat aussi pour les femmes. Forcément, tout ça, ça va renforcer l'idée que c'est assez difficile de trouver un ou une partenaire. C'est pas qu'il n'y ait pas des personnes, c'est que c'est assez difficile de trouver des gens. Parce que c'est difficile d'en parler, parce qu'il y a encore trop de tabous. Et en plus de ça, un dernier point qui est important, c'est si vous vous intéressez à un partenaire dominant qui fait du SM, c'est-à-dire sadomasochisme. J'en avais parlé tout à l'heure, vous aviez peut-être noté que le pourcentage y était très faible en fait. Donc là, évidemment, si vous avez un nombre de personnes qui s'intéressent à ça qui est assez faible, si vous cherchez un ou une partenaire qui fait du SM, qui est dominant, c'est-à-dire qui va donner du SM, si j'ose dire, là c'est carrément beaucoup plus difficile parce que le pourcentage il est faible. Et pourtant, c'est pas qu'il y ait pas de personnes qui s'y intéressent. sain. Mais ça dépend un petit peu quand même des pratiques. Et là, la raison, je pense, pour laquelle c'est délicat, c'est parce que quand on connaît pas surtout, le côté SM, ça fait peur. Évidemment. Vous imaginez bien que quand on parle de la fessée encore, ça peut passer, mais quand on parle de choses genre le fouet, etc., les images mentales, ce sont des, entre guillemets, violences, ou bien ce sont des films, des vidéos qu'on a vues, par exemple, sur des sites porno et qui sont en général relativement intenses. Ça peut être des films. Enfin, on se fait toute une montagne et on imagine des choses très intenses. Du coup, forcément, il y a beaucoup de personnes qui vont hésiter à vouloir le faire vraiment. Ça se comprend. Mais je l'ai toujours dit, hein, le BDSM et le SM en particulier, il y a de tout et on peut faire des choses légères aussi bien que des choses qui vont jusqu'à l'intense. Mais ça, tout le monde ne le réalise pas, évidemment. Et il y a beaucoup de préjugés contre le SM. C'est une des grandes branches du BDSM qui est la plus violemment attaquée. Parce que ce sont les choses que les gens comprennent peut-être le plus mal, mais ce sont des choses qui sont visuelles. Et donc, même si on comprend mal, on visualise l'Inquisition et le Marquis de Sade. C'est gênant. Parce que, évidemment, une personne qui fait du BDSM, c'est pas le Marquis de Sade et c'est surtout pas l'Inquisition. Mais ça, c'est évident quand vous connaissez le sujet. C'est pas évident quand vous le connaissez pas. Et si vous avez face à vous des personnes qui ont des accusations, des tendances comme ça à dire que c'est la même chose, c'est un tout petit peu difficile de se convaincre, de se lancer et de dire ouvertement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on est intéressé par ça. Du coup, je pense que c'est pas que ce soit forcément si difficile de trouver quelqu'un, mais ce qui est difficile, c'est clairement de trouver sur les sites de rencontres et les forums, parce que il y a assez peu de personnes qui s'en servent d'abord, il y a très peu de femmes pour les raisons que j'ai déjà évoquées, il y a beaucoup de personnes qui ont des hésitations à le dire ouvertement, donc il y a plein de personnes qui ont des envies, des capacités de le faire, mais faut les trouver. Et du coup, ça rend les choses un petit peu plus difficiles quand même. C'est plus facile d'avouer, entre guillemets, hein, que on a des tendances à la soumission, qu'on veut recevoir la fessée, qu'on veut être attaché sur le lit, que de dire que on voudrait faire subir ça à quelqu'un. Donc, d'un certain point de vue, oui, ça explique tout ça, à mon avis, pour une partie, que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui est dominant, même si, je me répète, hein, c'est relatif, c'est-à-dire les chiffres ne sont pas radicalement différents, mais le plus grand souci, le plus gros souci de fond quand même, c'est les problèmes d'attitude, d'arriver à débarrasser son esprit de tous ces embarras, de tous ces préjugés qui donne des menottes virtuelles, hein. C'est difficile de dire que, ah oui, moi j'aime fouetter mon copain ou ma copine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui osera le dire ouvertement. Et évidemment, quand on débute, tout ça, ce sont de vrais problèmes, des gros problèmes. En plus de ça, la plupart des personnes qui débutent ont un peu des idées fausses sur BDSM, vont par exemple s'imaginer qu'un partenaire ou une partenaire dominant est forcément quelqu'un qui a fond dedans, quelqu'un comme moi par exemple, mais ça a pas de sens. Ça a pas de sens, il y a très peu de personnes qui ont vraiment un intérêt à trouver un ou une partenaire qui fasse des choses vraiment intenses. Et on peut trouver énormément de satisfaction dans des choses qui sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins intenses et fréquentes que ce que font par exemple des personnes comme moi, des personnes qu'on voit parler sur les forums, ou bien qu'on voit aux événements qui sont à fond dedans. C'est un miroir déformant. Donc faut pas uniquement voir ce genre de personnes, sinon évidemment c'est très dur à trouver, bien entendu. Conclusion, pour moi, il y a beaucoup de problèmes de perception, mais il y a quand même, je pense, un certain problème de fond, parce que c'est encore difficile de parler ouvertement de tout ça, tout simplement. Et aussi, évidemment, vous avez le gros problème de personnes qui demandent beaucoup trop, bien au-delà de ce qu'elles ont besoin réellement, hein. Les demandes des hommes, typiquement, sur les forums de discussion, sont presque toujours très exagérées, hein. Le vocabulaire utilisé montre qu'ils sont en plein délire, hein. C'est ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment, hein. Et tout ça aussi a pour résultat que très souvent les personnes qui cherchent, notamment les hommes soumis, donc qui délirent un peu hein, sur ce qu'ils veulent, ils se rendent pas compte que ce qu'ils veulent, il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un qui est extrême dans le BDSM. Le problème, c'est que à cause de tout ça qui est mis bout à bout, les personnes elles vont pas chercher de la bonne façon, elles vont pas chercher au bon endroit, elles ont pas une démarche de recherche de partenaire qui est adaptée, qui est raisonnable. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de demandes un peu délirantes sur ces forums ou sur les sites de rencontres BDSM, et ça marche pas vraiment parce que ce sont pas les bonnes stratégies, en fait. Pour la plupart des gens, ça n'a pas vraiment de sens de vouloir utiliser ces moyens-là. Ce sont pas les bons moyens. Faut mieux regarder autour de soi, en fait. Mais c'est pas facile parce qu'il y a les tabous, etc. J'espère que dans cette petite présentation, je vous ai bien convaincu ou convaincu que des deux côtés, dans le côté soumission, dans le côté domination, il y a beaucoup de monde. Ça devrait pas être si difficile de trouver un ou une partenaire qui aime la domination ou qui voudrait faire de la domination, mais le problème, c'est que on est vraiment dans un environnement défavorable. Défavorable à la fois parce que les personnes ont encore dans la tête plein de mythes, d'idées fausses, etc., ne cherchent pas aux bons endroits, ont des demandes qui sont totalement à côté de la plaque. Vous avez aussi tous les problèmes que j'ai expliqués assez largement dans la partie précédente d'embarras, de difficultés à avouer ses envies, à les avouer ouvertement surtout, alors que en réalité, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient intéressées par tout ça. Et donc, on va se retrouver dans la situation assez connue, en fait, d'avoir des personnes qui cherchent des deux côtés et qui ne se trouvent pas. Qui ne se trouvent pas parce que c'est difficile, d'un côté, de faire les recherches aux bons endroits, et de l'autre côté, du côté dominant, c'est pas toujours aisé de verbaliser, d'expliciter tout ça, d'en parler ouvertement, d'en parler même à sa partenaire. Du coup, je pense que, au final, tout ça, vous voyez, si on met les choses bout à bout, ça peut clairement donner l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que c'est pas forcément aisé de trouver quelqu'un, une partenaire ou un partenaire qui soit dominant. Parce que on a beaucoup d'obstacles sur le chemin, des deux côtés. Et pourtant, il y a de l'offre et de la demande, hein, dans les deux cas, dans les deux situations, mais c'est très difficile de les faire se rencontrer correctement. Et même si clairement, c'est une très grosse exagération, hein, de dire qu'il y a 100 soumis pour une seule femme dominatrice, ce genre de choses, complètement ridicule. C'est le genre de choses qu'on dise des gens qui vont uniquement dans des soirées BDSM qui sont très peu fréquentées par les femmes pour plein de raisons. Alors évidemment, avec des expériences comme ça, on peut lancer des chiffres qui sont totalement exagérés, mais ça n'a pas de sens, hein. Je vous l'ai montré avec les statistiques, totalement faux. Mais il y a quand même des problèmes, c'est clair qu'il y a des problèmes. Et à mon avis, ce sont des problèmes de fond pas forcément aisés à résoudre. Ce sont les problèmes dont je parle depuis le début dans mes articles et dans mes épisodes. Ce sont les mythes, les problèmes globaux aussi du BDSM, de pas pouvoir en parler ouvertement parce que c'est encore tabou, mal vu, que encore de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire des problèmes, faire des accusations, etc. si vous avez le malheur de dire que vous aimez la domination. Et tout ça mis bout à bout, ça rend les choses difficiles, donc c'est pas du tout étonnant que ce soit plus difficile que ça ne devrait l'être de trouver quelqu'un qui est dominant. En gros, en résumé un peu simplifié, le dominant ou la dominante se cache, parce que c'est pas aisé d'être un petit peu ouvert sur le sujet. Bien sûr, faut relativiser, hein, j'exagère un petit peu en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que autant pour des personnes comme moi par exemple, qui ont réussi, après des années et des années hein, bien sûr, à totalement accepter leurs goûts, leurs envies, etc., et qui peuvent se permettre ensuite ou au moins qui se sentent assez sûrs d'elles pour pouvoir en parler ouvertement, mais ça c'est pas le cas de tout le monde, et c'est notamment beaucoup plus difficile quand on débute ou quand on fait du BDSM de façon beaucoup moins intense, qu'on n'a pas eu de recul, et encore plus si on a le malheur de vivre dans des milieux qui sont nocifs à ce sujet-là, c'est encore pire, évidemment. Voilà, j'ai essayé de dresser, vous voyez, un espèce de tableau des difficultés présentées, de pourquoi il y a cette perception que c'est difficile et pourquoi en réalité ça l'est dans une certaine mesure, même s'il faut relativiser, j'insiste. Si j'insiste, c'est pour si jamais vous êtes une personne qui cherchait justement un ou une partenaire dominante, j'insiste sur ce genre de choses pour pas que vous découragiez, que vous compreniez qu'il y a beaucoup de difficultés, mais c'est pas qu'il y ait personne en face. C'est que c'est difficile de trouver les personnes surtout, hein. C'est pour ça que tout à l'heure je disais à moitié en plaisantant que les personnes se cachent, mais probablement que vous en avez relativement près de vous et que vous savez pas, parce que les personnes n'osent pas en parler. Déjà parler de BDSM, c'est pas évident, et donc comme je l'expliquais tout à l'heure, parler de « oui j'aime fouetter quelqu'un, oui j'aime insulter ma partenaire », ça passe pas si facilement que ça. Mais il y a des gens, ça se trouve quand même. C'est juste que la communication est pas aisée, et donc se trouver les uns les autres, les unes les autres, c'est pas facile. Et ça sera pas facile pendant encore assez longtemps, malheureusement, puisque les préjugés contre le BDSM, les tabous, tout ça, c'est pas demain que ça va disparaître, malheureusement. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.